7-9 de Matin Première.
Matin Première, 7h44. Bonjour Thomas Gadisseux.
Bonjour à toutes et tous. Et
notre invitée est une femme à la tête d'une multinationale. Elle a brisé plusieurs plafonds de verre. Thomas, on reçoit la patronne de Solvay.
Ilham Kadri, première femme à la tête du chimiste belge Solvay, qui dirige près de 24 000 employés dans 64 pays dans le monde. Une capitaine d'entreprise avec un credo, le capitalisme responsable. Les entreprises, dit-elle, ont aussi des comptes à rendre à la société sur l'environnement, la solidarité, mais aussi sur les questions de diversité. Solvay lance d'ailleurs ce jeudi un plan à tous les échelons de sa structure mondiale. En quoi cette responsabilité est une opportunité aussi de croissance? On rappelle, Solvay est dans nos shampoings, nos produits d'entretien, mais aussi dans nos voitures, les ailes d'avion, les batteries. Alors comment ce géant de la chimie traverse-t-il les crises écologiques, sociales et économiques?
Bonjour Ilham Kadri.
Bonjour.
Les femmes leaders restent des exceptions. Hein. Vous parlez vous-même d'ailleurs d'anecdotes. C'est quand même un mot qui veut dire beaucoup. Comment l'expliquez-vous ça?
Alors, j'espère que ce sont des belles anecdotes. Hein. Ce que je veux dire, il y en a peu. Dans le S&P 500, qui sont les sociétés cotées en bourse aux États-Unis, il y a à peu près 30 sur 500, donc 6%. Donc voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc il faut presque 40 ans peut-être pour arriver à cette parité homme-femme. Il faut se vivier. Et pour nous, et c'est pour ça que c'est un jour important pour nous, on lance notre Solvay One Dignity, Solvay Une Dignité. C'est plus que la diversité. Il faut arrêter de parler de la diversité. Il faut parler de l'équité, l'égalité des chances. Il faut parler de cet environnement d'inclusion qui va permettre à cette diversité d'être attirée, de la garder. Parce que souvent, on attire la diversité, mais si on ne l'écoute pas, elle part, elle vous quitte. Donc voilà, c'est pour nous cette équité, cette inclusion qui sont importants et qui vont être un catalyseur pour la diversité.
Quand on parle de diversité, on pense genre,
oui,
ou origine. Et on se trompe, dites-vous, pourquoi ?
Parce que c'est plus que ça. Pour nous, la diversité, c'est la diversité, bien sûr, du genre, mais aussi la diversité des ethnies, des nationalités, des religions, la diversité de l'handicap, visible ou invisible, la diversité des pensées. Hein. On peut être très diverse dans le genre, voilà, dans la salle, mais pas avoir une diversité de pensées. Donc, c'est toute cette diversité qui est importante. La diversité des formations. Nous, on est un groupe international, comme vous l'avez dit, un tiers. On doit être représenté de nos employés autour du monde, hein, des employés en Chine, aux États-Unis, en Europe, mais aussi de nos clients qui sont aujourd'hui des clients du monde.
Et vous avez instauré un congé de maternité ou de paternité à 16 semaines partout dans le monde, donc dans les 64 pays, peu importe l'orientation sexuelle.
Oui.
Est-ce qu'il y a des pays où ça a posé problème?
Non, pas du tout, je pense pas, en tout cas on me l'a pas dit. On a reçu beaucoup de témoignages, hein, de pères, mais de coparents. Hein,
en Chine, par exemple.
En Chine, de familles LGBT qui prennent leur congé de 16 semaines. Parce qu'en fait, pour aider les femmes à arriver au top, il faut les aider dans des moments critiques de leur vie familiale. Quand on accueille un nouveau-né, quand on adopte un enfant. Et c'est important que les coparents soient là. Ce projet qui, au départ, quand on en a discuté, on s'est dit, est-ce que ça va être un coût? Non, c'est une opportunité, c'est un investissement. Parce qu'on a eu une jeune femme, d'ailleurs, qui vient de revenir de son congé maternité, qui a été promue en revenant. Hein, elle a pris ses 16 semaines et même des congés en plus. Et voilà, on a une collègue engagée, heureuse de revenir. Et si votre époux et épouse peut vous aider dans ces moments critiques, croyez-moi, un employé engagé, c'est un employé productif.
Ilham Kadri, en quoi c'est plus qu'un slogan pour le géant de la chimie que vous représentez? En quoi c'est aussi cette question de la diversité, un enjeu stratégique, économique pour la boîte?
Parce qu'on peut marcher sur sa tête en disant aujourd'hui, chez Solvay, on a 23% de femmes, hein, employées. On part à 34% chez les juniors et on arrive à 20% dans le top 30.
Donc tout en haut, il y a moins de femmes.
20%, donc. Et ce n'est pas parce que vous avez une femme dans le top que les choses sont résolues.
Il y a plus de devoirs, de responsabilités?
Oui, mais franchement, homme ou femme, on l'a tous. Je pense que tous les patrons de ce monde qui ne mettent pas l'équité, l'inclusion, la diversité, l'empathie, la solidarité dans le cœur de la stratégie vont disparaître. Donc ce n'est pas un problème d'homme ou femme, parce que probablement vous êtes un père, vous avez des enfants, donc on a cette responsabilité vis-à-vis de la génération future. C'est ça le legacy, c'est ça l'héritage qu'on veut donner. Et je prépare aujourd'hui avec mon management team le Solvay de 2030 en fait, hein, parce qu'on ne va pas régler les choses en une nuit. Donc il faut le préparer maintenant et avoir ce vivier.
Pour revenir sur votre situation, hein, être une femme directrice générale, dans le secteur de la chimie, qui est quand même aussi un secteur très masculin, on va le dire, à quoi ça tient de briser le plafond de verre ?
Moi, je ne me suis jamais levée le matin ou je ne me suis jamais dit « je suis une femme, donc ça va être plus dur hein. ». Donc
les
ça, yes, c'est personnel.
Madame, les oui, madame, ça vous n'aimez pas ?
Non, pas du tout, pas du tout. Moi, j'aime bien avoir cette diversité de pensée, hein, d'ailleurs. Hein. Plus on est divergent, mieux c'est. Parce que quand un patron, qu'est-ce qu'il fait ? Il a une vision, il met une stratégie en route. Et avant de dire, de donner le cap, de donner ce tempo, d'être le chef d'orchestre, vous assurez que tous les musiciens jouent en harmonie et que vous avez les bons musiciens et qu'on est d'accord sur cette harmonie. Donc ce débat qui se fait derrière la scène est très important. D'où notre stratégie qu'on a lancée à l'automne 2019. On a lancé une feuille de route sur le climat, Solver une planète. Et aujourd'hui, cette feuille de route de la diversité, de l'inclusion et de l'équité, c'est un débat participatif. Hein. Ce n'est pas venu des quartiers généraux à Bruxelles. Hein. On a eu des hackathons avec plusieurs équipes qui nous ont nourris et qui ont fait que Solver une dignité est lancé aujourd'hui.
Vous faites bien de nous en parler, Ilham Kadri, parce que ce que vous évoquez aujourd'hui, en parlant de Solver, vous parlez d'une entreprise responsable. Or, un groupe chimique comme le vôtre, dans la tête des gens, ça reste quand même, avant toute chose, le plastique. Thomas nous le rappelait, le shampoing, les voitures, on peut citer d'autres exemples. Comment est-ce qu'on combine aujourd'hui chimie, plastique et transition verte ? Est-ce que c'est vraiment compatible ?
Bien sûr que c'est compatible. La chimie, je l'appelle, au risque de la féminiser, excusez-moi, la mère de toutes les industries. Virtuellement, vous avez de la chimie autour de vous. On est invisible, mais il y a de la chimie inside et du Solver inside. On est sous le capot moteur. Une voiture électrique sans batterie, sans Solver inside n'existerait pas. On allège les objets, que ce soit une voiture, un avion, un vélo électrique. On remplace le métal, donc on rend le véhicule plus léger, vous consommez moins de kérosène, de fuel et vous émettez moins de CO2, donc on est un catalyseur de la mobilité propre. On est dans vos gâteaux d'anniversaire parce qu'on est le premier producteur de vanille naturelle dans le monde qui utilise des déchets d'écorce de riz, donc on est dans la circularité. Donc tout ça, vous avez parlé des shampoings naturels, etc. Donc voilà la chimie, et je pense que pendant la Covid-19, vous avez vu le rôle de la chimie et de la pharmacie, hein, donc vous l'avez vu.
Elle avait mauvaise presse quand même.
Et franchement, on fait partie du problème comme toutes les industries. Hein. On est émetteur de CO2.
Qu'est-ce qui a été le déclic ? C'est les actionnaires, les investisseurs, l'alignement des planètes politiques.
Tout le monde le demande.
Qui vous ont poussé à basculer ?
Tout le monde le demande. Nos employés, les millénials, moi je ne suis plus millénialse, mais je suis mère. Donc j'ai une responsabilité vis-à-vis de la génération future. Nos employés nous le demandent. Nos investisseurs nous le demandent, nos clients veulent de plus en plus de produits responsables et de produits écologiques. Et c'est pour ça que le Solver une planète, One Planet, aujourd'hui n'est plus que sur le CO2 ou le climat. Hein. Avant, on était vraiment très ancré climat. Aujourd'hui, c'est climat, ressources naturelles et bien sûr une meilleure qualité de vie. Nous avons rejoint les accords de Paris en février l'année dernière. Notre trajectoire sur la réduction de CO2 était de moins 0,8% en 2014-2018. En 2019 et en 2020, on a fait moins 8% structurellement, donc deux fois les accords de Paris, parce que nous nous sommes mobilisés.
Et pourtant, il y a encore le charbon dans le secteur de l'énergie.
Oui.
Il y a un Solver produit, des composants chimiques qui provoquent la fracture hydraulique, notamment sur la question du pétrole, du gaz de schiste. Donc on ne peut pas le nier, vous l'avez dit vous-même, vous faites aussi partie du problème. Il y a des axes politiques qui sont en train d'être tracés, notamment en Europe.
Oui.
Ça va poser question sur la compétitivité, clairement, des entreprises. Oui. Ça aussi, vous le reconnaissez. Il faut que tout le monde joue dans le même jeu.
Tout le monde. C'est un partenariat. On ne peut pas le faire tout seul. Vous avez parlé du charbon. On a un bel exemple. On vient d'annoncer, il y a deux semaines, la sortie de la première usine depuis l'annonce de Solver One Planet du charbon. C'est tout le début. Le support des autorités allemandes, hein, c'est une usine en Allemagne, Rheinberg, qui nous ont aidés à construire l'écosystème autour de notre usine pour sortir du charbon. Nous utilisons la biomasse, donc c'est des copeaux de bois, ce sont des déchets qui vont à la poubelle, qu'on va réutiliser comme énergie primaire. Et vous avez raison, nous on a plaidé qu'on va sortir du charbon d'ici 2030, mais on ne sait pas comment on va le faire dans certains pays comme la Bulgarie. On n'a pas encore de solution.
Donc le Green Deal pourrait être un handicap pour un géant mondial.
Moi je le vois comme une opportunité. Il serait un handicap si on le fait mal, si on le déploie d'une mauvaise manière, si la compétitivité n'est pas là, parce qu'il peut y avoir des fuites de prix de carbone et d'innovation. Le how comment le faire, il est en train de se discuter. J'espère qu'on va continuer à discuter. La localisation des chaînes de valeur comme l'Alliance des batteries, dont nous faisons partie. Alors, c'est bien d'avoir des usines qui produisent des batteries, qui les assemblent, mais il ne faut pas oublier les matières premières. Nous sommes très en amont. Si vous continuez à importer des produits, de la matière première de Chine ou d'autres régions, vous n'avez pas résolu le problème. Regardez les problèmes qu'on a eu sur certains vaccins, hein, sur certains médicaments, parce qu'on n'avait pas les matières essentielles. Donc, il faut vraiment avoir une discussion sur toute la chaîne de valeur. Ça, c'est très, très important. Et la compétitivité, le carbon leakage, hein, la fuite carbone et la fuite de l'innovation, c'est très important. C'est pour ça que c'est important que l'Europe continue à discuter avec l'administration Biden, qui a finalement rejoint les accords de Paris, et je l'accueille favorablement. La Chine qui dit aujourd'hui qu'ils vont être carbone neutre en carbone en 2060, voyons les faits. Donc tout ça doit rentrer en harmonie parce que, bon, on est quand même une société globale avec un trade qui est global.
Et on rappelle justement que vous avez des activités un tiers en Europe, un tiers en Asie et un tiers aux États-Unis, ce qui montre justement la globalité de votre vue. Quel est votre regard sur cette crise et surtout sur l'après-Covid ? Est-ce qu'on va repartir business as usual ou est-ce qu'il y a un big bang ?
Je l'espère pas. J'espère pas que ce sera business as usual, c'est autre chose. Mais j'espère qu'on trouvera une nouvelle normalité.
En quoi ?
La Covid, franchement, moi je suis une génération de leaders, j'ai vécu 2008-2009, j'ai vécu le 11 septembre, j'ai vécu même des pandémies comme le SARS, l'Ebola, tout ça, dans ma carrière, mais la Covid était quelque chose d'assez incroyable, inattendu, parce que c'est venu d'un coup, on n'était pas préparé. Moi au mois de mars, j'étais plus chief executive officer, j'étais chief mask officer, je cherchais des masques pour protéger notre outil de production et la recherche et l'innovation. Donc voilà, on a beaucoup appris. Chez nous, on s'est mobilisé. Solvay sort, émerge plus fort. D'ailleurs, le télétravail, on en a fait une politique de la maison hein, aujourd'hui.
Hein. Vous avez basculé en une semaine.
Deux semaines.
Avec des milliers d'employés.
10 000.
C'est la preuve que justement, parfois, on peut être radical dans le changement et que la stratégie de pas à pas.
Et on peut se sublimer. Parce que quand j'ai appelé mon patron de l'IT et je lui ai dit combien de personnes sur les 23 000 vous pouvez mettre en télétravail, il m'a dit 10 000, combien de temps il vous faut? Il m'a dit 6 mois. J'ai dit vous avez une semaine, il l'a fait en deux. Extraordinaire. Ça s'appelle se sublimer en temps de crise.
Ilham Kadri, les multinationales doivent-elles contribuer à l'effort de crise? Vous allez nous répondre dans un instant. Je vous propose tout d'abord de rappeler que les États-Unis souhaitent par exemple augmenter l'impôt sur les entreprises pour financer leur relance. On va écouter la secrétaire d'État au Trésor, la ministre des Finances en quelque sorte américaine, Yen Yellen.
Nous travaillons avec les pays du G20 pour s'entendre sur un taux minimal d'imposition sur les entreprises qui pourrait mettre fin à la course vers le bas. Ensemble, nous pouvons utiliser une taxation mondiale minimale sur les entreprises pour nous assurer que l'économie mondiale prospère sur la base de règles de jeu plus équitables.
Votre réponse, Ilham Kadri, et puis les multinationales doivent-elles contribuer à l'effort de crise?
Alors, je pense que les multinationales y contribuent déjà, je veux dire, de par la création de jobs, de par des investissements hein, très très lourds, quand vous parlez de l'électrification, de l'hydrogène, il y a des gros investissements sur l'infrastructure. Alors, il faut faire attention, il faut faire deux choses. Hein, il y a des discussions sur la fuite de taxes, et les gens qui ne payent pas le taxe, je ne vais pas rentrer là-dedans, ça c'est les autorités qui doivent légiférer. Je pense que l'Europe est en train de discuter de cette problématique, même l'administration Biden. Mais il y a aussi l'autre plan, c'est quoi le bon niveau de taxation pour continuer à promouvoir les investissements. Et c'est là où il faut voir un équilibre juste, un équilibre social juste, mais aussi un équilibre qui amène cette compétitivité et qui nous permet de continuer à investir. Parce que l'électrification, nous aujourd'hui, on est prêts, on a les produits pour l'allègement, pour les batteries, qui peuvent rendre une voiture automobile électrique ou hybride beaucoup moins chère et beaucoup plus abordable. Mais il faut l'infrastructure derrière, pas pour parler de l'hydrogène vert, qui est le futur pétrole, où il faut énormément d'infrastructures d'ici 2025-2030 et on a besoin d'investissements privés et publics.
Ilham Kadri, on parlait de responsabilité environnementale sur la question de la diversité. Il y a aussi la question de la solidarité.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, dans la tête d'une industrielle en 2021, faire du profit, faire du bénéfice, gagner une bataille économique?
Pour nous, il y a les 3 P qu'on appelle ça People, Profit, Planet. Donc, ce n'est pas contradictoire pour nous. Notre planète, c'est notre maison aujourd'hui. Sur une planète morte, il n'y a pas de job. Donc, il faut protéger cette planète.
Ensuite, mais il y a profit aussi.
Bien sûr, quand vous n'avez pas les profits, je ne manage pas une association charitable, non-profit. Je suis dans une société où effectivement, générer des profits, ça fait partie de l'écosystème pour pouvoir réinvestir. Et c'est ce qu'on a fait avec nos employés. Nous avons d'ailleurs désendetté la société depuis 2 ans, je les en remercie. Notre flux de trésorerie ne s'est jamais bien porté. Et tout ça, ça nous permet de réinvestir. Donc, ce n'est pas en contradiction.
Il faut arrêter de parler de diversité, c'est plus que cela, il faut parler d'équité pour aider les femmes à arriver au top. Il faut les aider dans des moments critiques de leur vie, notamment familial. Et puis un employé engagé, c'est un employé productif. Déclaration d'Ilham Kadri, patronne de Solvay. Merci d'avoir été l'invité de la matinale aujourd'hui. Merci à vous, Thomas Gadis.
Belle journée à tous.